vous souhaite la bienvenue au Collège supérieur pour le cycle 7 mots pour comprendre notre temps. J'essaierai de pas oublier à la fin de vous faire une annonce concernant le Collège supérieur qu'on m'a demandé de vous faire. Et donc je me présente rapidement puisque on est entre nous. Donc je m'appelle Vincent Aubin, c'était marqué sur les papiers, je suis professeur de philosophie, j'enseigne la philosophie à Marseille et à Lyon. Et j'ai le plaisir d'être sollicité de temps en temps par Jean-Noël Dumont pour animer quelques soirées au Collège supérieur. Le thème de ce soir, c'est le voile. En fait, j'avais même dit, quand j'avais proposé un mot pour comprendre notre temps, j'avais juste dit « voile ». En espérant que certains viendraient par amour du bateau, par exemple. Hein, mais malheureusement, la blague a été éventée, et donc il a mis un masculin. Mais ça va pas nous troubler. Le principe de cette série de mots pour comprendre notre temps, il est annoncé sur le petit dépliant, là, le petit programme. Les mots que l'opinion impose peuvent peser sur nos esprits, à nous de les interroger pour leur rendre leur légèreté. Il me semble que cette idée de légèreté s'appliquant à un voile est particulièrement appropriée, même si il n'est pas exclu que le propos de ce soir contribue plutôt à lester le voile d'un certain point de gravité, d'une densité au moins symbolique, qui fera que on verra qu'il n'est pas si facile de lever le voile. Donc un mot qui existe autant au masculin qu'au féminin, mais comme je l'ai dit déjà, je ne parlerai que du voile. C'est une des ironies peut-être de la langue française que la voile est essentiellement une affaire d'homme, hein, en général, alors que le voile évoque pour nous irrésistiblement la femme. Et il sera forcément question du genre du voile ce soir. Et comme il sera aussi forcément un petit peu question d'islam, je ne résiste pas au plaisir de vous faire entendre quelques vers que vous connaissez, qui sont parmi les plus connus de la poésie classique, qu'il faudrait s'efforcer d'écouter sans idée préconçue, parce que il me trottait dans la tête jusqu'à ce que je me décide à aller voir le texte pour être sûr. Ce sont des vers du Cid. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, enfin avec le flux, nous fait voir 30 voiles. L'onde s'enfle dessous et d'un commun effort, les maures et la mer montent jusqu'aux ports. Alors je n'oserais pas prétendre que Corneille, dans ce récit de l'invasion des maures, comme vous savez, repoussé par Don Rodrigue, lorsqu'il écrivait 30 voiles, pensait à des femmes voilées plutôt qu'à des bateaux à voile. Mais, enfin, la métonymie, hein, désignait le tout pour la partie, j'avais appris ça en classe, quand on disait 30 voiles, c'est 30 bateaux, la métonymie fonctionne dans les deux genres et on peut trouver savoureux cet exemple où l'arrivée des maures dans un port d'Europe se signale précisément par la vue d'un afflux menaçant de voiles. Le propos de ce soir sur le voile sera forcément quand même un petit peu léger, et comme c'est pas un concept de grosse densité philosophique, a priori, même si on va essayer de réfléchir sur le voile, le propos aura un petit peu des airs de balade, d'itinéraire. Parce que parler du voile, c'est forcément à la fois faire l'analyse d'un symbole et en même temps ce qu'on pourrait appeler l'archéologie d'un trouble. Le symbole, c'est celui d'un vêtement qui nous semble réservé, et d'aucuns diront imposé, à la gente féminine et qui me semble pouvoir marquer que leur sujétion, leur soumission. Et le trouble, d'aucuns diront la panique, c'est celui qui nous saisit lorsque nous sommes confrontés à ce signe et que nous savons d'emblée s'il faut y voir un affront, une menace, un défi, une régression, en tout cas quelque chose comme la revendication, à nos yeux incompréhensible, d'une soumission librement revendiquée. Le fait marquant, c'est que chez nous, en France, très notablement, c'est autour de ce mot, le voile, que s'est construite la discussion publique, notamment sur la place de l'islam dans notre société. Nous n'avons pas connu le 11 septembre, et en quelque sorte, toute proportion gardée évidemment, les affaires de voile C'est un peu notre 11 septembre soft, avec un débat qui se poursuit pratiquement sans interruption, avec des phases de faible et des phases de haute intensité, depuis l'année 1989. Peut-être vous rappelez-vous que cette année-là, dans un collège de Creil, des jeunes filles se sont présentées voilées au collège, revêtues d'un foulard qui cachait leurs cheveux, et que cette affaire qui aurait pu être réglée peut-être par une action pleine de tact et de discrétion des autorités du lycée est devenue très rapidement une affaire politique. On a parlé à l'époque de l'affaire du foulard, et vous savez qu'en France, dès qu'une discussion, dès qu'une affaire nous concerne, on l'appelle, c'est une affaire, précisément. Donc, sur le modèle de l'affaire Dreyfus, on pourrait dire, nous avons eu l'affaire du foulard, qui s'est réglée laborieusement. À l'époque, en 89, le ministère de l'Éducation nationale était dirigé par Lionel Jospin, on était en pleine cohabitation, personne n'a voulu, semble-t-il, prendre la responsabilité d'une décision. On n'était pas en cohabitation, mieux encore. Toujours est-il que, alors ça explique encore, ça explique, mais ne justifie encore moins l'attentisme qui a été celui du ministère à ce moment-là, hein, et la querelle s'est envenimée de règlements en circulaire et de circulaires en injonction jusqu'à finalement l'adoption d'une loi en 2003 ou 2004. Attends, j'ai peur de me faire corriger. Enfin, j'ai pas peur. J'espère me faire corriger aussi souvent qu'il faudra, prohibant le port de signes religieux ostensibles dans les enceintes scolaires. Et puis l'affaire a rebondi quelques années plus tard. Et cette fois-ci, on a parlé tout le temps de voile, parfois de burqa, de longs travaux à l'Assemblée, des auditions en 2008-2009 qui ont abouti au vote d'une loi prohibant le port d'un vêtement voilant intégralement le visage dans l'espace public. Voilà où nous en sommes. Et il est très probable que si c'est ce mot de voile qui a fini dans toutes les mutations de la discussion, par concentrer, par exprimer notre malaise ou notre trouble, c'est probablement que le voile avait disparu depuis longtemps de notre propre horizon. Longtemps, c'était peut-être il y a un siècle, peut-être il y a 50 ans, dire plus, lorsque dans les villages, il était encore habituel pour une femme de sortir coiffée, c'est-à-dire les cheveux dissimulés, au moins en partie sous une coiffure, un chapeau pour les élégantes, mais à la campagne, le plus souvent, un voile, parfois d'étoffe assez rude, qui tombait souvent sur la nuque ou jusque dans le dos. En tout cas, il était coutume pratiquement universelle dans toutes les régions, avec des variantes charmantes de costumes, parfois de village à village, pour les femmes, de porter une coiffe, un chapeau, un voile. Et je crois qu'on a tous en tête des images du début du siècle, des représentations, peut-être on a visité des musées du costume et on a pu apprécier cette variété d'ornements. Il y a 50 ans, les femmes cachaient leurs cheveux. Comme il y a un siècle, comme il y a 3 siècles, comme il y a 10 siècles, à la vérité, depuis toujours, on serait tenté de dire, si l'on regarde les représentations féminines du Moyen-Âge, de Rome, de la Grèce, et de toutes les civilisations qui nous sont familières. Au fond, c'est très récemment que chez nous, la tête nue sied à la femme occidentale, même si je me réjouis franchement ce soir de n'avoir que des têtes nues devant moi. Et du coup, ces voiles, ces foulards, ces que nous ne savions pas très bien désigner, lorsque les discussions commençaient, on a pu se renseigner pour savoir s'il fallait parler de hijab, de niqab, de burqa, etc. Ces voiles signifient pour nous l'étrangeté absolue. Ils évoquent un passé disparu ou des contrées contemporaines mais lointaines. Le voile, c'est pour nous l'Orient, toujours une origine oubliée, occultée peut-être, et en même temps, aujourd'hui, l'opposé contemporain de l'Occident, la terre des autres, qui fascine quand elle est à distance, qui peut charmer, mais qui inquiète lorsqu'elle se fait trop prochaine, lorsqu'elle prend pied chez nous. Alors, il est évident, je crois, que la question du voile est toujours, en définitive, un problème de frontières. D'une part, le voile est par définition ce qui effectue et ce qui traduit en même temps une séparation. Par le fait même qu'il attire le regard, qu'il arrête le regard, pardon, le double sens où il empêche le regard d'aller plus loin et où peut-être il attire l'attention. Le voile donc est une marque une séparation. Et la question sera peut-être de savoir ce que le voile sépare. Mais ce qui se joue depuis une vingtaine d'années dans le voile, sous le voile, c'est toujours un problème de frontières, de limites, de seuils. Sans prétendre être exhaustif, plusieurs seuils, plusieurs frontières me semblent venir facilement à l'esprit. D'abord, pour nous, la frontière entre les musulmans et les non-musulmans. Également, évidemment, la séparation entre les hommes et les femmes. Mais également la séparation entre les femmes voilées et les femmes non voilées, y compris musulmanes. La séparation entre le public et le privé, dès lors que nous voyons dans le voile l'affichage public d'une appartenance religieuse que nous réputons privée. Il s'agit également dans la question du voile, le seuil qui fait passer de la rue à l'école, qui est pour nous le sanctuaire de l'égalité républicaine. On peut voir également dans le voile le signe, le symbole d'un clivage entre générations, dans la mesure où nous savons que ce sont de préférence des jeunes musulmanes, parfois des convertis, qui reprennent un foulard qui avait été abandonné par leur propre mère. Peut-être aussi se joue dans le voile, si on songe au fait que c'est dans un collège qu'a éclaté la première affaire du foulard, ce seuil délicat qu'est l'adolescence, au moment où la jeune fille négocie son passage à l'état de femme dans une société qui, malgré toutes nos dédégations, fait plus que jamais du corps des femmes un champ de bataille. Autrement dit, cette énumération qui n'est pas exhaustive suggère que le voile est doté d'une étonnante polysémie. Il est apte à signifier toutes sortes de frontières, de significations possibles, et je crois que c'est cette polysémie, cette prolifération des significations qui explique en partie notre sidération. Et également l'insuffisance de tous les discours qui prétendent régler la question avec un seul concept. On a parlé de laïcité en pensant que parler de laïcité allait nous permettre d'y voir clair. On a évoqué évidemment l'émancipation féminine, sans prendre en compte le fait que ces jeunes filles qui portaient le voile pouvaient à bien des égards être tout à fait aussi émancipées que leurs camarades de classe. On a parlé d'ordre public, etc. Le voile est un symbole et il ne peut être que cela. Et c'est ce qui le rend difficile à ranger dans une catégorie unique. Mais c'est en outre un symbole dont nous avons perdu l'usage, comme je le rappelais en évoquant cette disparition du voile des femmes dans nos sociétés. On en a perdu l'usage, et avec l'usage, on en a perdu le sens. Et c'est pourquoi, pour essayer de cerner le sens de ce voile, je crois qu'il faut faire un peu l'archéologie de sa disparition, qui est pour nous l'histoire du dévoilement en Occident. Alors peut-être pour être un peu clair, je voudrais annoncer l'idée directrice de mon propos, d'autant plus que je suis pas convaincu d'avoir une conclusion à vous suggérer, et que je vous propose explicitement plutôt un itinéraire, une promenade, et dans la discussion on essaiera sans doute peut-être de tirer des conclusions ensemble. Si je devais formuler ma propre thèse sur le sens du voile, je dirais que, contrairement à ce que nous pensons spontanément, le voile n'est pas d'abord ce qui recouvre, ce qui masque, ce qui dissimule. Idée qui, je crois, nous vient à l'esprit lorsque nous pensons au voile des femmes, à ce voile qui couvre leur chevelure et peut-être leur visage. Donc que le voile n'est pas l'équivalent d'un masque, mais qu'il est l'équivalent symbolique d'une séparation, c'est-à-dire d'une division de l'espace. Qu'il est, comme je l'ai suggéré à l'instant, essentiellement une frontière et non pas un couvercle. Et je crois que c'est ce déplacement léger de la perception du voile qui nous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair. Alors, si j'ai voulu parler à l'instant de dévoilement, et dire qu'il fallait faire forcément l'archéologie de cet oubli, cette occultation, cette disparition du voile dans nos sociétés, c'est parce que, en un certain sens, on pourrait dire que la civilisation occidentale est, par définition, on pourrait dire, hein, la civilisation qui fait tomber les voiles. C'est la civilisation du dévoilement, qui peut se dire aussi en latin « revelatio » et en grec « apocalypse ». C'est-à-dire la civilisation qui fait du dévoilement, du fait de lever les voiles, de les ôter, de les faire tomber, le ressort intime de son développement. Et je voudrais d'abord essayer de donner un petit peu de consistance à cette idée. Si on part du plus récent pour nous, ce dont nous avons l'expérience immédiate, la modernité politique en France s'exprime par un puissant mouvement d'égalité, d'égalisation des conditions, qui suppose l'abrogation des différences statutaires. Pour nous, tous les hommes, incluant les femmes, sont égaux en droit, et s'il y a des différences qui existent entre eux, elles ne peuvent être que adventices, accidentelles, ajoutées, justifiées par des considérations d'efficacité, de mérite, etc. En aucun cas, ce sont des différences, on pourrait dire, ontologiques, comme des différences qui sépareraient l'humanité en partie, hein, en morceaux disjoints. Il s'agit, dans le mouvement de l'égalisation, dont a parlé par exemple Tocqueville, de faire tomber les séparations pour ne retenir que la commune humanité de tous. Et la pointe extrême de ce mouvement, chez nous, c'est encore aujourd'hui l'émancipation féminine, qui s'est jouée en bonne partie sur le terrain du vêtement. Il n'y avait peut-être pas de voile à faire tomber à l'époque, mais il y avait l'enjeu de l'exposition, la revendication de l'exposition du corps féminin. Et c'est en partie ce qui rend sans doute incompréhensible pour nous au premier abord l'apparition des voiles. Dans la tradition des Lumières, on a envie de dire ici dans la légende, hein, des Lumières, il n'est pas possible de se soustraire volontairement à l'attrait des idéaux égalitaires. Une fois connue, une fois révélée l'égalité de tous les hommes, il n'est pas possible de volontairement, délibérément, consciemment refuser cette égalité. L'idée, c'est que ce sont uniquement les préjugés, l'endoctrinement des prêtres, le pouvoir des princes, hein, qui maintiennent des frontières, des séparations, des statuts inégaux. Lorsque la vanité de la construction de ces discours est dévoilée, normalement, nous acceptons, nous adhérons spontanément à l'idée que, en effet, nous sommes tous égaux. C'est pourquoi il y a quelque chose de mystérieux dans l'apparition de ces jeunes filles et jeunes femmes voilées. Beaucoup pensaient, et beaucoup l'ont dit, si elles se voilent, elles sont forcément contraintes. Il n'est pas possible qu'elles acceptent délibérément, qu'elles adoptent délibérément un emblème de soumission, de subordination. Autrement dit, si elles savaient, elles voudraient forcément s'émanciper. Il n'y a pas de place dans nos catégories mentales pour ce paradoxe que serait une aliénation librement consentie. Et par conséquent, les libérateurs et les libératrices professionnelles ont essayé de faire fonctionner leur discours émancipateur. À leur grand désarroi, il ne semblait pas fonctionner. On y reviendra à la fin. Alors, sur ce registre de l'égalité commune, on peut remarquer que si l'idéologie des Lumières implique de dévoiler le caractère arbitraire des inégalités, de révéler l'égalité par-delà les voiles, on pourrait dire, des différences instituées, il impose dans la pratique de voiler ces différences, de faire comme si elles n'existaient pas, de ne pas en tenir compte. À l'époque contemporaine, un philosophe américain important, John Rawls, qui a écrit un livre majeur de la pensée morale et politique qui s'appelle « Une théorie de la justice », a introduit l'expression de voile d'ignorance. On est parfaitement dans le registre des Lumières, dans la mesure où, dans la théorie de la moralité de John Rawls, quand on se pose une question de moralité, comme par exemple, est-ce que l'esclavage est légitime ? Pour bien réfléchir, dit Rawls, il faut jeter un voile d'ignorance sur nos propres particularités, sur notre position, sur nos qualités acquises ou naturelles, sur tout ce qui nous distingue les uns des autres. Réfléchir en se mettant à la place de n'importe qui. Et par ce procédé, faire comme si nous n'avions aucun intérêt particulier, comme si, par exemple, oublions que nous sommes un blanc du sud des États-Unis, et posons-nous la question, est-ce que l'esclavage est souhaitable ? Autrement dit, le voile d'ignorance jeté sur nos particularités individuantes permet à chacun de réfléchir en excluant tout ce qui, dit Rawls, est non pertinent pour la moralité, pour déterminer la moralité d'une question. Premier exemple de la manière dont l'Occident est une civilisation du dévoilement, mais avec, peut-être, caché à l'intérieur, un voile qui réapparaît sur nos particularités, et peut-être un problème qui peut devenir lancinant en période de crise, lorsque les personnes veulent voir reconnues précisément leurs particularités, ne pas être traitées comme des individus interchangeables, mais appréciés, estimés, reconnus dans leur singularité. Deuxième aspect, deuxième couche peut-être de ce lien entre Occident et dévoilement. Les sciences de la nature. Pierre Hadot, un philosophe français qui est mort il n'y a pas très très longtemps, a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Le voile d'Isis ». Le voile d'Isis est une réflexion sur l'histoire occidentale qui part d'un aphorisme d'Héraclite, « La nature aime à se voiler ». Et il montre comment l'histoire de la pensée occidentale, notamment, mais pas exclusivement, dans sa version scientifique, consiste précisément à aller au-delà, à voir au-delà des voiles de la nature, à soulever ses voiles, si on veut, pour lui arracher ses secrets. C'est ce qu'il appelle la tradition ou la voie prométhéenne, qui est celle de la science. On pourrait dire, dans cette acception-là, ce qui est voilé dans la nature est de l'ordre du secret. Et c'est ce secret que la science vise à arracher, au besoin, par l'expérimentation que l'on peut facilement et que certains textes assimilent à une forme de torture, voire de viol, parce que la nature ne parle pas, ne se laisse pas dévoiler comme ça. Il y a dans la science un aspect d'une volonté de maîtrise, se rendre maître et possesseur de la nature, qui a cette dimension de violence, il faut arracher les voiles pour dévoiler les secrets de la nature. C'est la voie prométhéenne. Et de manière très intéressante, Pierre Hadot montre que la sentence d'Héraclite a ouvert également dans notre histoire une autre voie, qu'il appelle la voie orphique, qui n'est pas la voie du... pourrait dire, dans cette voie, ce qui est voilé, ce n'est pas de l'ordre du secret, mais plutôt de l'ordre du mystère. Il ne s'agit pas tellement d'arracher les voiles, mais au travers d'une initiation, de franchir le voile, de passer au-delà, pour entrer en communion avec la nature, par les voies de la méditation, de l'allégorie, bref, de la poésie ou de l'occultisme. Et dans notre histoire, les deux courants ont grandi de manière parallèle, je crois parfois se nourrissant l'un l'autre. À une époque comme la Renaissance, il est très difficile de démêler la dimension prométhéenne, l'essor de la science, et la dimension ou la voie orphique, la dimension occulte, le recours à la cabale, le recours au symbolisme. On retrouve la même ambiguïté, je crois, au XIXe siècle, à l'époque romantique, lorsque, on pourrait dire, la modernité est le terrain d'un enjeu, d'une lutte entre les poètes et les savants. les poètes qui s'inscrivent dans la voie orphique, hein, on peut penser à tout le romantisme allemand et français, Victor Hugo, etc., hein, et cette idée de la nature comme, hein, comme un, une sorte de temple, hein, dans lequel il faut pénétrer, et le poète, hein, a ce don de comprendre par les voies de l'analogie, de l'allégorie, les mystères de la nature, et puis, en concurrence, hein, la voie de la science, du dévoilement des secrets de la nature. Alors, il n'est pas évident que le savant ait définitivement supplanté le poète. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un retour, une nouvelle fascination pour l'occulte, mais qui s'inscrit bien, en tout cas, dans cette idée typiquement occidentale, que la nature aime à se voiler et que la condition humaine est précisément, d'une manière ou d'une autre, d'aller au-delà de ses voiles. Et peut-être le prix à payer, là aussi il y a une blessure secrète, hein, c'est que ce dévoilement programmé produit le désenchantement du monde, la perte du sacré, l'impression d'habiter un monde plat, sans mystère, sans relief, et donc peut-être la tentation de le réenchanter de manière plus ou moins arbitraire. Il y a encore un autre voile, dont la chute, ou peut-être, ou plutôt le déchirement est fondateur de l'histoire occidentale. Et c'est, évidemment, le voile du temple de Jérusalem, qui, d'après les récits des évangiles synoptiques, se déchira en deux de haut en bas à l'instant précis de la mort du Christ. Symbole puissant et tragique, hein, de la fin de l'ancienne alliance, l'abolition du culte du temple de Jérusalem, et en même temps, symbole de la plénitude de la révélation advenue dans le Christ. Ce voile du temple dont il est question, c'est un lourd rideau richement orné qui est décrit de manière détaillée dans le livre de l'Exode et qui protégeait dans le temple le sanctuaire, le Saint des Saints, la partie la plus reculée du temple où se trouvait à l'origine l'Arche d'Alliance, hein, contenant les tables de la loi, et qui était surtout le lieu de la présence mystérieuse de Dieu parmi son peuple. On ne pénétrait jamais dans le Saint des Saints, sauf une fois l'an, le grand prêtre, qui passait au-delà du voile pour offrir le sacrifice de l'expiation pour ses propres péchés et ceux de tout le peuple. Dans l'Évangile, le Christ se présente comme le temple définitif, donc comme la présence, la véritable et définitive présence de Dieu parmi les hommes, en qui s'opère la réconciliation, hein, qui rend caduque les sacrifices de l'ancienne loi. La signification de cette identification du Christ au temple, elle est reprise et approfondie par saint Paul, et peut-être surtout par l'Épître aux Hébreux, qui explique, en développant au long de plusieurs chapitres magnifiques, un parallélisme entre l'ancien culte et le nouveau, parlant du Christ, dit « Nous avons un grand prêtre qui le premier a traversé le voile. Nous pouvons à sa suite entrer dans le sanctuaire, c'est-à-dire entrer dans la communion avec Dieu. Le Christ a traversé le voile. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « le voile, c'est-à-dire sa chair. » Et on peut penser que c'est une allusion, j'ai dit que les synoptiques parlaient tous, donc les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, du fait que le rideau du temple se déchire, saint Jean ne signale pas cet événement, mais il est le seul à parler de l'épisode de la lance qui transperce le côté du Christ. Dans l'exégèse des Pères de l'Église, l'événement du déchirement du voile du temple est principalement interprété à la lumière de cette parole du Christ « Rien ne se trouve voilé qui ne doive être dévoilé, rien de caché qui ne doive être connu. » Autrement dit, l'idée, hein, qui rejoint un thème développé par saint Paul, c'est qu'un voile couvrait les yeux des Juifs, les empêchant notamment de saisir le sens plénier des Écritures, et qu'avec le Christ, ce voile est tombé, qu'il a été déchiré, que tout est devenu clair. Et on peut retenir de cette riche thématique biblique pour l'instant ceci, qu'il y a à l'origine de l'universalisme chrétien l'idée d'un voile qui tombe, d'une plénitude de révélation qui ouvre le salut aux dimensions de toute l'humanité. Et pourtant, là aussi, on pourrait dire, quelque part, il y a dans le christianisme la présence obstinée d'un voile. Un autre voile qui ne tombe pas. Saint Paul dit, nous prions, nous, à visage découvert, réfléchissant comme en un miroir la gloire du Seigneur. Moïse, lui, devait, lorsqu'il paraissait devant les enfants d'Israël, se voiler la face pour leur épargner la vue de la gloire de Dieu qui irradiait son visage. Mais nous sommes nous-mêmes devenus le temple de Dieu. Le temple, c'est vous, dit-il aux Corinthiens. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous pouvons prier désormais sans nous couvrir la tête, car nous sommes dans le sanctuaire. Nous sommes nous-mêmes le sanctuaire. Et pourtant, cet accès à la prière à visage découvert, inconnu des Juifs, paraît, notamment dans un texte qui est le chapitre 11 de l'Épître aux Corinthiens que j'ai reproduit dans les textes, semble être réservé aux hommes, puisque saint Paul, à titre de règle de discipline pour les assemblées, prescrit aux femmes de garder le voile. Et inévitablement, cette mention du voile pour les femmes nous ramène au voile apparu chez nous, le voile islamique dont j'ai parlé au début. Et c'est pourquoi je voudrais aborder avec vous, là, après cette espèce de petit parcours qui vise à faire sentir toutes les raisons que nous avons d'être en quelque sorte, sinon hostiles, du moins étrangers à l'idée du voile. Je voudrais maintenant tâcher de cerner les significations possibles du voile. Autrement dit, répondre à la question pourquoi se voiler la face, ou pourquoi se voiler la tête, plus exactement. Et je crois que la clé peut se trouver précisément dans ces textes de saint Paul, dans lesquels se rejoignent le sens métaphorique du voile, lorsqu'il parle du voile sur les yeux des Juifs, qui est tombé dans le Christ, donc le voile qui tombe, l'idée de la révélation, du dévoilement, de l'accès plénier à la vérité, sens donc métaphorique, dont on a vu qu'il parcourait l'histoire occidentale sous différentes figures. Et puis, le sens concret du voile, le voile réel, qui prend deux figures principales. Le voile du temple, autrement dit le voile comme rideau, comme séparation entre deux espaces, et puis le voile qui couvre la tête des femmes. Et mon idée est de me servir du voile du temple, en quelque sorte, pour comprendre le voile des femmes. Autrement dit, de montrer ce que j'annonçais tout à l'heure, comment la vraie signification du voile, elle est plutôt du côté du rideau du temple que du côté d'un masque qui dissimule la chevelure ou le visage de la femme. Alors, il faut partir de ce qui est difficile. Et puisque j'ai cité et reproduit le texte de saint Paul, lisons au moins ensemble quelques versets. Tout homme qui prie ou prophétise le chef couvert, le chef c'est la tête, on emploie ce mot un peu désuet parce que dans le texte original, on a un mot qui peut signifier à la fois le chef au sens du supérieur et puis le chef au sens de la tête, comme on dit un couvre-chef. Donc tout homme qui prie ou prophétise le chef couvert fait affront à son chef, qui est le Christ. Toute femme qui prie ou prophétise le chef découvert fait affront à son chef, qui est l'homme. Si donc une femme n'avait pas de voile alors qu'elle se coupe les cheveux, etc. Mais si c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou tendus, qu'elle mette un voile. L'homme, lui, ne doit pas se couvrir la tête, etc. On pourrait dire quelle différence avec le Coran. Alors, je prétends pas du tout être un expert en Coran, et c'est un terrain extrêmement difficile et délicat. Toutes les interprètes se disputent sur la question, est-ce qu'on en a beaucoup parlé il y a quelques années, justement, est-ce que c'est une prescription religieuse, que dit le Coran, etc. Donc, au moins, ce qui me paraît un terrain à peu près sûr, c'est les deux textes du Coran qui parlent explicitement du voile des femmes. J'aimerais à la fois les lire, et puis essayer à partir de là de faire apparaître des différences qui me paraissent significatives. J'ai reproduit donc sous le numéro 2 et 3 les deux séries de textes qui sont constamment citées comme justification du fait que les femmes doivent être voilées. Donc dit aux croyant. Alors, parmi les fautes d'orthographe, j'ai vu que là, c'est baiser leur regard. C'était vraiment pas ça qu'il fallait écrire. Donc, c'est baisser leur regard, évidemment. De même que dans le texte de saint Paul, il y a un mai qui est écrit M-A-I comme le mois de mai. Donc, je suis désolé. Et c'est typiquement les mots qui sont pas signalés par le correcteur d'orthographe parce que c'est des mots qui sont qui passent en français. Donc, de baisser leur regard d'être chaste, ce sera plus pur pour eux, dit aux croyants, d'être chaste, de baisser leur regard, de ne montrer que l'extérieur de leurs atours, de rabattre leur voile, ici le mot est kimar, m'a-t-on dit, sur leur poitrine, de ne montrer leurs atours qu'à leurs époux, à leurs fils, etc. Et puis, deuxième verset, prophète, dit à tes épouses et à tes filles, de ramener sur elles un pain de leur voile, encore un autre mot, qui n'est ni le hijab, ni le niqab, ni rien du tout, elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Il n'est pas inintéressant de savoir que le contexte de ce dernier texte, point de vue historique, est celui du dernier mariage de Mahomet, sa septième épouse. Il avait aperçu la femme de son fils adoptif en tenue légère, et son fils adoptif, connaissant son père adoptif, semble-t-il, avait aussitôt divorcé de son épouse pour que Mahomet puisse l'épouser. Et à ce moment-là, Dieu lui a dit que c'était la dernière fois qu'il pouvait se marier, c'était que la septième. Et il a, à ce moment-là, donc pris cette recommandation aux fils de l'islam de voiler leurs épouses. Je crois, sans vouloir m'apesantir, que dans tous les textes coraniques et les glosses qu'on peut lire, le voile est constamment lié, le voile des femmes, à la sexualité, à la pudeur, à la nécessité de protéger la pudeur des femmes, de masquer leurs attraits au regard des hommes. Il y a bien dans l'islam un lien entre révélation et dévoilement, au sens physique du terme. C'est une scène originaire, lorsque Mahomet commence à avoir ses révélations, et qu'il est inquiet sur leur signification, il a peur de devenir fou, d'être persécuté par les démons, il va trouver son épouse, à l'époque on a la première épouse, Khadija, en lui parlant de ses inquiétudes. Est-ce que, autrement dit, est-ce que ces révélations, est-ce que ces voix qui me parlent, ces signes que je vois, est-ce que tout cela vient de Dieu? Il est dans l'intimité de son foyer, et Khadija se dévoile, faut dire se dénude en partie, Et elle demande à son époux, est-ce que l'ange est encore là? Et l'époux répond, Mahomet répond, non, il est parti. Et donc, Khadija lui dit, c'est donc que tes révélations viennent de Dieu. Pourquoi? L'interprétation autorisée, c'est que un ange, un être pur, s'enfuit devant l'exposition de la femme, alors qu'un démon serait resté, au contraire, pour jouir du spectacle. Par conséquent, si l'ange a disparu, c'est que c'était bien un ange et non pas un démon. Et c'est de cette manière que, dans l'islam, la révélation est liée à l'origine, au dévoilement de l'épouse, et que les féministes musulmanes peuvent dire que c'est finalement son épouse, donc la femme, qui a pu rassurer Mahomet sur l'origine divine de ses révélations. Alors, comme je ne suis pas un expert du Coran et que je ne veux pas prendre de risques en disant n'importe quoi, je prends simplement appui sur ce texte, cette histoire d'ange dans l'histoire de Khadija, pour attirer votre attention sur une allusion énigmatique de saint Paul dans le passage de l'Épître aux Corinthiens. On est au verset 10. « Voilà pourquoi la femme doit avoir sur la tête un signe de sujétion à cause des anges. » Alors que signifie c'est à cause des anges? Alors on pourrait s'adresser ici à Tertullien, père de l'Église du IIe siècle, vivant à Carthage en contexte oriental, qui a écrit un texte important qui s'appelle le Voile des Vierges. Dans ce texte, il fait un long commentaire, évidemment, du texte de saint Paul aux Corinthiens, qui est, dont je vais resituer bientôt le contexte. Mais je vous invite à lire le premier texte de Tertullien que j'ai reproduit, c'est sous le numéro 4. Il faut donc rejeter dans l'ombre un visage aussi dangereux qui a pu semer jusqu'au ciel des occasions de chute, que placer sous le regard de Dieu, devant qui il doit répondre des anges déchus, ce visage de la femme, Ils rougissent également du fait des autres anges et répriment cette liberté fatale jadis qu'il accordait à sa tête, sans même désormais l'offrir aux yeux des hommes. Autrement dit, que la femme se voile. Alors qu'est-ce que veut dire Tertullien ? Il comprend la mention de saint Paul à cause des anges comme une allusion à un épisode assez énigmatique rapporté dans la Genèse au chapitre 6. Lorsque il est dit que les fils de Dieu, la tradition comprend comme étant des anges, hein, les hommes ont commencé à avoir des enfants et l'humanité à se multiplier, et donc les fils des hommes trouvèrent que les filles des hommes leur convenaient, hein, ou les trouvèrent à leur goût. Et ils prirent pour femmes toutes celles qui leur plut. Et donc il y a cette idée, cette légende, hein, mystérieuse qui reparaît dans le texte, hein, d'anges qui seraient descendus sur terre pour prendre les femmes des hommes, hein, et qui se seraient unis à elles et qui auraient engendré ceux qui, dans les civilisations archaïques, sont appelés les héros, hein, êtres intermédiaires entre Dieu et les hommes. C'est ce que dit la Bible donc au début du chapitre 6. On pourrait tirer encore d'autres textes, du texte de Tertullien, d'autres citations qui rendraient pour nous un son, on pourrait dire, bien coranique. J'en ai reproduit un. Je l'ai pas reproduit, mais je vous le lis du coup. « Je t'en prie, Vierge, que tu sois mère, sœur ou fille, pour vous énumérer selon les noms qui conviennent à vos âges, porte le voile si tu es mère à cause de tes fils, si tu es sœur à cause de tes frères, si tu es fille à cause de tes pères. Chaque âge en toi court un danger, revêt l'armure de la pudeur. Entoure-toi du rempart de la discrétion, élève autour de ton sexe un mur qui ne laisse ni sortir tes regards, ni entrer les regards d'autrui. » On trouverait difficilement dans la tradition chrétienne antique, je crois, des incitations plus radicales au port généralisé du voile au nom de la pudeur, hein, de la protection des femmes et de la protection des hommes. C'est d'ailleurs un texte, hein, qui est volontiers cité dans les argumentaires musulmans sur le voile pour montrer qu'en Occident et chez les chrétiens aussi, les femmes doivent porter le voile. Et pourtant, le rapprochement, je crois, ne peut s'opérer qu'au prix de lourds contresens. Il y a eu en effet à Carthage au IIe siècle une affaire du voile. Mais la question était précise. Est-ce que les vierges, on discute sur la question de savoir si ce sont des vierges consacrées ou simplement des jeunes filles non encore mariées, est-ce que les vierges doivent être voilées à l'église ? Et le texte de Tertullien porte entièrement sur la question de savoir si, dans les assemblées des chrétiens, à l'église, les vierges doivent porter le voile à l'instar des femmes mariées. Et donc on a un débat violent, on est à Carthage, Tertullien n'est pas un tendre, entre ceux qui pensent que le texte de saint Paul prescrivant aux femmes de se voiler à l'église ne s'applique qu'aux femmes mariées, le mot grec peut signifier femme mariée, ou ceux qui, comme Tertullien, pensent que par la femme il faut entendre toute femme qui est devenue femme, autrement dit toute femme nubile, donc y compris les vierges. Donc c'est pas la question du voile dans l'espace public, on pourrait dire, hein, dans la rue, etc., mais uniquement la question de la tenue à l'église. Première rectification du contexte, tout ce qui est dit, même les phrases les plus épouvantables, là, qu'on a lues, hein, ne s'applique qu'à la tenue à l'église. Je vais en parler, mais ça limite le problème. À noter d'ailleurs que Tertullien, dans un texte que cette fois-ci j'ai cité, évoque les coutumes des païens, et notamment des païennes d'Arabie, on est bien avant l'islam, hein, qui en plus de la tête se couvrent le visage entier. Donc là on a le voile intégral, hein, qui n'est donc pas d'origine coranique, d'origine musulmane, se contentant ainsi, hein, la traduction dit contente ainsi de jouir, hein, par le seul œil laissé libre, donc c'est même pas la burqa telle qu'on l'a vue, c'est qu'il n'y a qu'un seul œil, semble-t-il, hein, d'une moitié de lumière, plutôt que de livrer à tous leur visage entier. La femme aime mieux voir qu'être vue. À coup sûr, la réserve que montre la discipline païenne est plus fruste et, pour ainsi dire, plus barbare, barbarior, hein, dit-il. Autrement dit, Tertullien dit, bon, on va quand même pas, nous les chrétiens, mettre la barre beaucoup plus bas que les païens et les païennes, hein, même si voiler le visage de la femme, c'est quand même barbare. Alors, je crois que c'est quand même significatif qu'un puritain comme Tertullien, hein, qui justifie le voile en termes de pudeur et donc dans un contexte de sexualité, hein, au nom du danger que courent et font courir les femmes aux hommes et éventuellement aux anges, exclut comme barbare la coutume de voiler le visage. Je crois que c'est un témoin capital dans ce contexte du fait que, en Occident et dans une ère de civilisation chrétienne, il est impensable de voiler le visage des femmes. Mais alors, il faut noter chez Tertullien, dans son argumentation, une étrange contradiction. Parce qu'enfin, si il était vraiment question de pudeur dans les prescriptions pauliniennes, si le problème était le danger que font courir, hein, les femmes aux hommes, ou qu'elles courraient d'ailleurs en étant exposées à leur convoitise, etc., il serait un peu bizarre de ne vouloir cacher que leurs cheveux. Je veux bien que leurs cheveux soient beaux, qu'ils soient voluptueux, qu'ils soient l'emblème de la féminité. Enfin, le visage de la femme, ses yeux, son regard, sa bouche, son nez. Tertullien lui-même, dans le même texte, dit un peu plus haut pour justifier qu'il faut que le voile couvre les oreilles, il dit « Dans le visage de la femme, tout est femme ». Autrement dit, il n'y a pas que les cheveux qui sont féminins dans le visage de la femme. Il n'y a pas que les oreilles. Hein, il dit qu'il faut couvrir les oreilles et qu'on entendra très bien quand même. Hein. Mais il y a les yeux, il y a la bouche, il y a tout le reste. Hein. Autrement dit, c'est un peu bizarre, on pourrait dire. Si c'est vraiment ça que cette histoire de voile sur les cheveux, si ça voulait vraiment signifier d'abord la pudeur, la seule conclusion logique, c'est le voile intégral. Hein. C'est la coutume barbare. Là, on met vraiment... Là, on prend vraiment les moyens. Et c'est aussi, je crois, qu'il ne faut pas voir dans le voile, d'abord, ce qui sert à cacher, à recouvrir d'un couvercle ce qui est dangereux ou éventuellement abject. Alors, le texte de saint Paul dont part toute cette discussion ne parle pas de pudeur ou de tentation sexuelle. Il parle de l'ordre dans les assemblées de prière. Et si on suit les traductions habituelles de la Bible, la justification du voile, c'est qu'il est le signe de la sujétion de la femme, hein, de sa soumission, hein, du fait qu'elle est subordonnée à l'homme. Et cette sujétion dans la Bible renvoie à la malédiction originelle, hein, « il dominera sur toi ». Remarquons d'ailleurs que saint Paul semble conscient, toujours dans le même texte, que cette soumission est une conséquence de la chute. Il dit d'ailleurs, verset 11, dans le Seigneur, la femme ne va pas sans l'homme, j'ai l'impression que j'ai fait des fautes horribles, bon, ni l'homme sans la femme, car si la femme a été tirée de l'homme, Ève tirée de la côte d'Adam, l'homme à son tour naît de la femme, comme nous le savons tous. Et tout vient de Dieu. Par conséquent, à l'origine, égalité, commune origine, etc. Et puis, on pourrait dire désordre, hein, et conséquence de la chute, hein, la soumission de la femme au pouvoir de l'homme. Et l'incise à cause des anges est comprise par la plupart des exégètes comme signifiant que les anges sont les gardiens de l'ordre divin de la création et de l'ordre des assemblées de prière. Ce qui nous met face à deux problèmes. Je vois que le temps passe et que je ne veux pas non plus vous lasser, donc je terminerai peut-être sur ces deux problèmes et puis on pourra discuter des aspects contemporains du voile. Première question, pourquoi de toute manière se voiler en présence du Très-Haut ? Deuxième question, pourquoi cette discipline qui est dans l'Ancien Testament, qui vaut donc pour les Juifs de l'Ancien Testament, abolie pour les hommes et maintenue par saint Paul pour les femmes ? Alors, première question, pourquoi de toute manière se voiler en présence de Dieu. Lors du débat sur le voile, on a parfois entendu cette question, si on interdit le voile aux musulmanes, est-ce qu'il faudra l'interdire aussi aux religieuses ? Et, en tout état de cause, c'est un voile qui ne couvre pas leur visage, mais uniquement leurs cheveux. Hein, mais reste la question, pourquoi est-ce que les moniales sont voilées ? Est-ce que c'est une question de pudeur ? Est-ce que c'est pour protéger, hein, leur virginité ? Dissimuler peut-être leurs attraits. Je ne dis pas que le motif puisse apparaître. Mais en un sens, à l'origine, c'est plutôt tout le contraire. Parce que le voile, comme on l'a eu l'occasion de l'entendre à quelques reprises, le voile des vierges signifie à l'origine qu'elles sont des épouses, les épouses du Christ. C'est d'ailleurs un thème qui est introduit et peut-être pour la première fois par Tertullien dans son écrit sur le voile des Vierges. Hein, l'idée que la Vierge qui se consacre à Dieu est une épouse du Christ, et que donc elle doit prendre le voile qui est le signe de la femme mariée. Le voile des Vierges dont parlait Tertullien est à l'origine le voile des épouses et même des époux. Quelques repères, on pourrait dire, anthropologiques. À Rome, dans la Rome antique, dans la Rome païenne, au moment du mariage, la fiancée était revêtue d'un voile rouge qu'on appelait le flammeum. On effectuait, avant la rencontre avec l'époux, la jonction des mains, etc., ce rite de l'obnubilatio capitis, du fait de voiler sa tête, de recouvrir sa tête. Pourquoi ? L'explication traditionnelle est que ce voile est un signe d'initiation. Le mariage dans la Rome antique signifie non seulement l'entrée de la fiancée dans la catégorie des femmes mariées, mais surtout l'entrée dans l'initiation de la fiancée au culte domestique de son époux. Entrer dans une nouvelle maison, dans la Rome païenne, c'est entrer dans un foyer protégé par des divinités tutélaires domestiques, les dieux-là. Et par conséquent, le mariage est une initiation au culte de l'époux, au culte de la maison de l'époux. Et c'est le sens du voile de la femme. Cette idée qu'il y a comme une initiation ou une consécration au moment du mariage, elle adopte en quelque sorte un nouveau culte, le culte domestique de son époux. Sous le christianisme, il n'y a pas de culte domestique, et c'est pourquoi la coutume du voile sera étendue aux deux époux. Encore maintenant, en certaines régions du monde, et en tout cas dans l'Antiquité chrétienne, au moment des épousailles, on étendait un voile sur les deux époux, signe de leur consécration. Voile qui d'ailleurs était dans beaucoup de régions rouge, comme il était à Rome. Et le voile blanc était exclu à l'origine, même pour les vierges consacrées, car le voile blanc était le voile des vestales. Et que, dès l'origine, les pères ont toujours refusé toute analogie entre les vierges consacrées chrétiennes, épouses du Christ, et les vestales. Et par conséquent, elles avaient un voile de couleur, et même, pourquoi pas, un voile rouge. C'est uniquement beaucoup plus tard que ce symbole s'étant perdu, le voile des Vierges est devenu, de préférence, pas toujours exclusivement, un voile blanc. Le voile est, on est ici, je crois, dans la signification originelle du voile, le signe et l'instrument d'une consécration. Et consacrer veut dire mettre à part, séparer. Et c'est la clé de toute l'affaire. Dans un texte assez curieux, marrant, on pourrait dire, d'ethnographie amateur, Plutarque, ce texte s'appelle Les questions romaines, Plutarque demande à un moment pourquoi se voile-t-on la tête en adorant les dieux. Et le brave Plutarque est un peu dépassé par cette question, comme par pratiquement toutes celles qu'il pose dans son livre, mais le livre est intéressant pour connaître les usages romains. Donc il est dépassé par la question, mais il est un bon témoin de la coutume romaine, dont le sens s'est manifestement perdu à son époque. Mais on a heureusement d'autres textes qui permettent de cerner le sens de la signification du fait de se voiler. Par exemple, les descriptions de rituels de ce qu'on appelle la devotio, le fait de se vouer, de se consacrer, acte rituel, qui a une signification généralement tragique. La devotio, c'est l'acte par lequel un Romain, souvent un consul, un général, parfois un soldat délégué à cette besogne, se consacre à Dieu pour inverser le cours de la bataille. Il s'offre à Dieu avant de se jeter dans les rangs de l'armée ennemie. Et l'idée de ce geste, c'est que s'étant offert au Dieu, autrement dit ayant accepté la mort, ayant fait venir la mort sur lui par des paroles rituelles, il va, en se jetant dans les rangs ennemis, communiquer, contagier la mort qu'il a acceptée volontairement. Et les Romains connaissaient tous l'histoire, au moins différentes générations de la gens Decius, dont le premier, précisément Decius Mus, C'est le premier, recouvert d'un voile, à prononcer les paroles rituelles de consécration avant de se jeter dans les rangs ennemis et de faire basculer le sort de la bataille qui paraissait perdu pour les Romains. De même, lorsqu'on fonde une ville, le fondateur qui trace à la charrue les lignes, la ligne symbolique du mur, effectue ce rituel la tête couverte. Ce que fait le voile, autrement dit, c'est signifier la mise à part, la consécration. Le fait que celui qui se voile a quitté le monde profane, est entré dans le monde sacré. Il est sorti du monde visible, si vous voulez, il s'est soustrait au regard. Il est passé de l'autre côté. Lorsque Moïse a sa première vision de Dieu sur l'Horeb, dans l'épisode du buisson ardent, lorsque il est en présence de Yahvé et que Yahvé se révèle comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Moïse se voile la face. Alors on peut dire, c'est pas exactement pareil. Là, il se voile la face, non pas pour entrer dans l'intimité divine, mais au contraire pour s'en protéger. Mais je crois que la signification du geste est la même. Moïse, à ce moment-là, n'est pas encore conscient d'être digne d'entrer dans l'intimité divine. Et donc, il importe absolument pour lui de faire tomber une séparation entre Dieu qui brûle dans le buisson et lui-même, de se maintenir dans l'espace profane, d'éviter que son regard ne tombe sur Yahvé. Et on sait que on ne pouvait pas voir Yahvé sans mourir. Plus tard, lorsque Moïse s'entretient avec Dieu, il le fait sous la tente, derrière un voile qui introduit la tente de la rencontre, une séparation entre l'espace, entre guillemets, profane du camp et l'espace de la rencontre avec Dieu, qui est une sorte de concentration du Sinaï, il s'entretient avec Dieu à visage découvert, et c'est lorsqu'il sort pour parler aux enfants d'Israël qu'il met un voile sur son visage. Et on est dans ces gestes rituels au plus près de la signification du voile du Temple, qui chez les Juifs reproduit exactement ce dispositif, c'est-à-dire marquer l'espace sacré, le Saint des Saints, le sanctuaire, là où le regard ne peut pas pénétrer. Les Juifs, se tenant pendant les cérémonies sur le parvis ou dans les différentes salles du Temple, mais leur regard étant empêché par le voile de pénétrer jusqu'au sanctuaire. Et mon interprétation du passage de Saint Paul, dont on est parti, c'est que la clé repose dans la hiérarchie qui est proposée au début du texte. Hiérarchie entre eux, le Christ, l'homme et la femme. L'homme, dit Saint Paul, est image et reflet de Dieu. Le mot ici traduit par reflet, le mot doxa, est celui qui est ailleurs, et notamment lorsque Saint Paul parle de Moïse, dont le visage reflète la gloire de Dieu, donc le mot est traduit, c'est le même mot qui est traduit par gloire ailleurs. Autrement dit, l'homme est à la fois image et gloire de Dieu, la femme est reflet et gloire de l'homme. Le rapport de l'homme à Dieu est dans l'ordre sacré, et le rapport de l'homme à la femme, il est constitutif de l'ordre créé qu'il résume, l'ordre originel de la création. Ce qui est aboli dans le Christ, pour saint Paul, c'est la frontière entre l'homme et Dieu. On est dans une nouvelle économie et toute l'humanité a pénétré au-delà du voile, dans l'intimité du Dieu vivant. Et avec l'homme, la femme, qui participe aux assemblées. Il n'y a pas dans le culte chrétien de séparation entre le parvis des femmes, par exemple, et le parvis des hommes. Il n'y a plus de parvis, tout le monde se tient à l'intérieur. Autrement dit, tous les chrétiens sont des prêtres. Il n'y a pas dans le peuple chrétien de laïcs, au sens où il y avait des laïcs dans le peuple juif, tout le monde se tient dans le sanctuaire. Donc en ce sens, tout le monde est admis dans l'intimité divine, et pourtant, saint Paul, qui n'hésite pas à faire tomber le voile couvrant la tête des hommes, veut maintenir le voile qui couvre la tête de la femme. Et je crois, enfin c'est mon interprétation et je suis pas exégète, c'est que c'est pour ne pas supprimer ce signe qui ne traduit pas une hiérarchie inhérente à l'ordre divin ou à l'ordre sacré, mais pour maintenir une hiérarchie inhérente à l'ordre créé. Hiérarchie dont le caractère provisoire est marqué d'ailleurs par saint Paul dans son texte, lorsque il rappelle que l'égalité foncière des deux dans le Seigneur. Mais donc l'important, le capital, c'est que l'homme et la femme adorent dans le même temple, et en même temps, il ne faut pas que cette égalité dans l'ordre surnaturel donne l'impression que l'ordre de la création est aboli. Et donc, la femme doit garder ce voile sur sa chevelure comme signe de sa soumission à l'homme, de sa subordination, parce que c'est la condition qui résulte de la chute. Condition qui, on pourrait dire, est d'emblée déjà guérie, mais qui n'est pas encore supprimée. Et le rappel était d'autant plus important que saint Paul parle aux Corinthiens, communauté connue pour son effervescence, son côté, on pourrait dire aujourd'hui, charismatique, et donc leur tendance à penser que la spiritualité permet d'abolir toutes les barrières, toutes les frontières, et pourquoi pas les frontières entre les sexes. Ce qui reste intangible et capital dans le texte de saint Paul, c'est que ni l'homme ni la femme ne voient leur visage devant Dieu, ni leur visage l'un face à l'autre. Parce que ce visage humain reflète toujours la gloire de Dieu. La chevelure, elle marque précisément la différence des sexes. Elle n'est pas associée dans le texte de saint Paul, il n'y a pas de trace de pudeur, de séduction, le côté capiteux de la chevelure féminine. Il y a uniquement l'idée que, dans la nature, comme dit saint Paul, il y a une différence entre l'homme et la femme, autrement dit une différence des sexes. Et c'est cette différence que saint Paul ne veut pas voir supprimée au nom de l'égalité de tous dans le sanctuaire. Comme ça fait une heure que je parle, je vais m'arrêter en essayant de reprendre un petit peu le propos. J'ai voulu marquer d'abord une différence qui me paraît en fait capitale entre la signification qu'un lecteur de la Bible peut donner aux différentes occurrences du voile et celle qui s'inspire, qui se fait en termes de sexualité et de pudeur. Évidemment, il y a un discours occidental et un discours chrétien sur la pudeur, sur la tenue des femmes, etc. Mais c'est pas un discours qui passe par le voile. Et dans le contexte chrétien, la véritable signification du voile me semble être, si on revient aux origines, non pas précisément le danger de la beauté féminine, mais la nécessité de maintenir des formes de séparation, des formes de division qui paraissent inhérentes à l'ordre créé, et que la fonction propre du voile n'est donc pas de masquer, de dissimuler, mais simplement de symboliser la séparation. D'où mon idée que la vraie signification du voile, et on pourrait, peut-être en reprenant d'autres textes de saint Paul, approfondir cette question, tous les textes où il parle du voile qui est tombé, du voile de Moïse, etc., montrer que toujours le voile qu'on met sur la tête est référé symboliquement au voile du temple. Autrement dit, ce voile est toujours de l'ordre de la séparation et pas de l'ordre, on pourrait dire, du couvercle ou du masque. Qu'il est toujours éventuellement une frontière, mais qu'il n'est pas une protection. Et que c'est en partie parce que nous n'avons pas dans notre répertoire culturel, en quelque sorte, d'association spontanée du voile à la pudeur, que nous pouvons être si désarmés par les revendications des jeunes musulmanes. Dans notre culture, on pourrait dire, le voile, y compris le voile des femmes, est plutôt perçu comme un ornement gracieux. J'ai commencé en citant Corneille, je vais finir en citant Racine. C'est Phèdre qui se réveille et qui n'arrive pas à dormir, et qui dit que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent. Elle n'est pas très contente de ces voiles, mais c'est quand même des ornements. Quelle importune main, en formant tous ces nœuds, a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux, tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. C'est aussi un des vers sublimes de Racine. Dans un autre registre, Buffon, à l'époque du début de la vogue de l'orientalisme, ne peut pas voir dans le voile des femmes orientales autre chose qu'un ornement. Il dit « La coiffure des femmes arabes, quoique simple et galante, Elles sont toutes à demi ou au quart voilées. Donc on ne peut pas dire qu'il ait perçu non plus la signification. Et le cantique des cantiques, hein, puisque j'ai parlé beaucoup de la Bible, n'hésite pas à dire que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Et le voile revient d'ailleurs à plusieurs reprises. Et c'est le voile de la fiancée, hein, toujours dans ces cas-là. Bien, donc, comme le temps a avancé, je ne vais pas développer la question de comment traiter aujourd'hui nos affaires de voile. Si la question vous intéresse, on en parle dans les discussions. Si vous voulez revenir sur le volet anthropologico-symbolique, je le fais volontiers. Et je me contente de vous laisser la parole.